J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais te conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Vous êtes sur Radio Grand Air et on se retrouve pour notre nouvelle semaine cinéma. Et c'est avec grand plaisir qu'on retrouve Pascal, qui nous a trouvé un invité.
Oui, pas que. Mais pas que. Il n'y a pas que moi aujourd'hui et c'est super d'ailleurs. Bonjour Christophe.
Et bonjour Pascal.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 73 d'Entracte.
Ça y est, c'est lancé.
Ah, c'est lancé.
Nouvelle séance et à la brèche, on est, comme on le rappelle chaque semaine, ici en enregistrement
dans le hall,
avec un super canapé. Ouais. Le super canapé qui a un invité cette semaine.
Absolument. Alors, en plus des films, nous avons un super invité, quelqu'un qu'on connaît bien à la brèche ici et qui fréquente régulièrement les salles. C'est un bouffeur de films. Je le vois plusieurs fois par semaine. Et un jour, il m'a raconté une super histoire. Et je voulais qu'il vous la raconte. Qu'il vous raconte son expérience. Il a été figurant sur un tournage qui s'est passé dans la région. Je parle de Christophe. Thérèse, qui est là avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Christophe. On te réserve pour tout à l'heure.
Oui, je me concentre.
Alors au sommaire de cette nouvelle émission spéciale, Pascal, tu nous as choisi 6 films cette semaine, 6 rendez-vous à la brèche.
Alors cette semaine, oui, effectivement, il y aura 6 films. On va parler de la dernière création de Peterson, Élémentaire, donc ça sera la dernière création des studios Pixar. On va parler aussi de la dernière création d'Andy Muschietti, on va parler de The Flash, ça c'est pour tous les amateurs de science-fiction. On va parler aussi de la dernière comédie de Robin Six, Sexygénaire, une comédie française. On va parler également d'un film qui a l'air plutôt pas mal aussi. J'aime bien le scénario de E.T. McDowell, L'improbable voyage d'Harold Fry. On va parler aussi du dernier film d'Ilan Klipper, donc Le processus de paix, ainsi que du film d'Elias Belkédar, donc Omar la fraise.
Ah, très bien.
C'est marrant ça, on dirait un plat.
C'est vrai, on en mangerait presque. Et avec le personnage de la semaine.
Et le personnage de la semaine, évidemment, ce sera Christophe qui va nous parler donc de son expérience, qui nous a fait la gentillesse de venir nous parler. C'est pas simple de mettre un casque, prendre un micro, tout ça, c'est une drôle de démarche pour
d'entendre sa propre voix.
Et d'entendre sa propre voix.
Dans le micro, casque, ça fait bizarre.
Ça fait un peu dérangeant, c'est pour ça qu'il faut. Voilà, je loue son courage et sa gentillesse d'être venu. C'est pas simple.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.
Merci à toi d'être venu.
Alors c'est parti Pascal, on va commencer par le premier choix de la semaine. Et à tout moment bien sûr notre invité, qui n'est plus un invité mystère, hein, on le rappelle, hein, Christophe Pérez.
Oui, absolument.
On va peut-être réagir s'il a vu déjà.
Il disait on l'avait déjà annoncé la semaine dernière.
En fait, ça ne sortira
ah bon
pas.
Ah oui, on a parlé de toi la semaine dernière.
Ah bon, d'accord.
De la radio, ça reste dans la radio.
Ça reste dans la radio, bien sûr.
Oui. Du coup, il va y avoir des tas d'auditeurs plutôt.
Mais écoute, moi je dirais oui.
Voilà. Parfait.
Ça l'est déjà pour le numéro précédent, oui, absolument. Ça sera le 72. C'était le 72. Et là, on est au numéro 73. Élémentaire. Pas mon cher Watson. Pas du tout. C'est la dernière création donc, des studios Pixar, un film américain d'1h41, animation comédie de Peterson. Alors, Peterson, En 2015, il a réalisé Le Voyage d'Arlo, qu'on a passé à la brèche. C'était il y a quand même quelques années, ouais, 2015, ça commence à remonter. Mais Peterson, c'est son deuxième long métrage. Il a patienté de 2015 jusqu'à nos jours. C'est son deuxième long métrage. Pixar est venu le chercher. Nous, on le souhaite bonne chance. C'est jamais simple.
Ah oui, c'est
en deuxième long métrage. Oui, oui, oui. Il a été présenté en clôture au Festival de Cannes cette année. Alors, dans la ville d'Element City, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Donc voilà, c'est pour vous éclairer un truc. Alors j'ai pas réussi à trouver de documentation sur ce film-là. Je suis vraiment désolé, je peux pas trop étayer. Mais il est réalisé donc par Peterson et c'est un film. Alors comme il nous dit, c'est un film drôle, plein de vie et très honnêtement stupéfiant à regarder. Donc il a été créé pour que le public puisse en faire l'expérience sur grand écran et comme il nous dit, et je suis ravi qu'il soit présenté en avant-première mondiale à Cannes, hein, une présence sur la croisette comme il nous a dit, qui se fera avec style comme vous pouvez le constater ci-dessous. Voilà.
Et le personnage principal, je crois qu'il est doublé par Vincent Lacoste.
C'est possible. Vincent Lacoste,
ouais, ouais,
d'accord.
J'avais vu une émission comme ça sur... Au Festival de Cannes, justement, il était venu présenter le film et Vincent Lacoste, et puis je me rappelle plus la voix de la.
Ouais, ouais. Et des fois, t'as une pléiade, tu vois, d'acteurs français qui font les doublures, hein. Il y en a beaucoup, hein. Je sais que Vincent Cassel en a fait, dans L'Âge de Glace, Omar Sy aussi en a fait.
Gérard Lanvin. L'Âge de Glace aussi.
Il était dedans.
Ah oui, oui, oui. Le mammouth, c'était Gérard Lanvin.
C'était Gérard Lanvin.
Très bien.
Ouais, ouais. Parce que le tigre.
Et Elie Semoun.
Le tigre, c'était Vincent Cassel.
Oui,
ça c'est sûr.
Ouais.
Elie Semoun
qui faisait le petit personnage, je me rappelle plus, mais
ah le paresseux.
Oui.
Ah d'accord. Oui. Ah oui. Mais tu vois rien que à la musique de sa voix, ouais, j'étais là, c'est le paresseux.
En plus, la doublure, hein, c'est pas forcément un exercice facile. On en parlait une fois.
Non, c'est pas simple. Ouais,
dans l'émission, il faut arriver à se mettre dans le personnage, à suivre.
Ouais. Déjà, faut vivre le film déjà.
Ouais.
Ouais, ouais. Mais je sais qu'ils sont devant un grand écran. Et tu as des phrases qui défilent dessous, il faut que ça soit dans l'intonation, il faut que ça soit pile poil dans le tempo,
c'est un sacré boulot, hein.
C'est un boulot, c'est un travail, hein, c'est un gros travail, ouais.
Et c'est comme les ceux qui font les voix aussi d'artistes américains dans des films connus,
oui.
Des artistes français,
ah, doublures,
enfin, des doublures,
ouais. Ouais.
Et qu'on revoit des fois dans des films, on va dire.
Assez moyen.
Et on dit, cette voix, je la connais.
On dit téléfilm.
Et téléfilm, voilà. Donc élémentaire,
ça sera donc à découvrir à la brèche cette semaine. Alors, il y aura donc une avant-première, avant de le découvrir en sortie nationale, qui sera le dimanche 18 à 15h45. Donc une avant-première de élémentaire. Hein.
Très bien,
donc, j'espère écoute, donc voilà que vous
serez très heureux
de
venir,
le découvrir. Oui, oui.
Juste après la sieste et avant de goûter.
Voilà, c'est pile poil après la sieste.
Ça tombe un dimanche, donc c'est très très bien. Tout le monde sera disponible pour venir à la brèche. On enchaîne avec la suite de la sélection de la semaine. Ça s'appelle Le Flash. Tu as choisi.
Le Flash. Alors oui, on est toujours aux États-Unis. Un film
science-fiction.
Américain.
Hein.
Alors, on est carrément dans l'action fantastique, science-fiction. Donc The Flash, donc un film de 2h24, donc de Andy Muschietti, qui lui n'est pas américain, il est argentin, hein, cet homme-là. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, c'est lui qui a réalisé Les Ça. Tiré du film du bouquin de Stephen King.
Ah oui, les deux.
Oui, oui, il a réalisé ça et ça, chapitre 2. Donc voilà un petit peu pour vous donner un petit peu le gabarit de Monsieur Muschietti. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Ezra Miller, Michael Keaton.
Ah oui.
Quel qui tourne bien.
Très bien. J'ai longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma.
Oui, parce que il y a des questions de Batman à la retraite et je suis persuadé que c'est
le premier choisi.
Mais il y a un autre Batman aussi, Ben Affleck.
Oui.
Oui. Sacha Calier, Michael Shannon, Kiersey Clemons, Maribel Verdú et Ron Livingston. Alors The Flash, c'est les réalités s'affrontent dans The Flash lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir et Barry se retrouve pris au piège d'une réalité où le général Zod est de retour menaçant d'anéantir la planète. Et oui, encore une fois, c'est un sujet à chaque fois,
ça déborde, hein, sur la planète.
La planète, ouais,
c'est vrai.
Et menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu. À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un kryptonien incarcéré qui n'est pas forcément celui qu'il recherche. Barry s'engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu'il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l'univers ?
Suspense.
Ça, c'est la grosse question. Alors, au niveau de le Flash, c'est un projet qui est de très longue date. Hein. En 2004, déjà, on annonçait David S. Goyer à la réalisation du film consacré aux super-héros. C'est ensuite les noms de Seth Graham Smith, qui a tourné Orgueil et Préjugés et Zombie, Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires, Eric Fumiwa, pardon, qui a tourné Dope, qui était respectivement attaché au long métrage en 2016. C'est finalement le réalisateur de ça, donc Andy Muschietti, qui a décroché le poste en 2019. Alors, interprète de Flash dans la série éponyme, l'acteur donc Grant Gustin n'est jamais apparu dans les films DC. Zack Snyder, réalisateur de Batman versus Superman, donc l'aube de la justice, et Justice League dans lequel sont apparus Flash. Et il a expliqué donc ne pas avoir voulu caster Gustin pour le rôle car le ton de la série et celui des films étaient trop différents. Par ailleurs, la notion de multiverse permet d'avoir deux acteurs différents pour jouer le même super-héros, les deux univers évoluant en parallèle mais sans se croiser. Alors évidemment, les budgets sont colossaux. Mais oui. Donc il était doté d'un budget de 220 millions de dollars. Et The Flash a coûté plus cher que Wonder Woman qui était à 200 millions ou Black Adam en 190. Et se présente comme l'un des projets les plus onéreux de DC Studios. Donc à chaque fois, il monte de gamme. C'est plus cher, de plus en plus cher, de plus en plus cher. Donc un montant colossal que l'on doit notamment aux nombreux effets spéciaux, mais également au décor, en particulier la Batcave. Le Covid-19 qui a retardé la production et la sortie du film a également pesé sur le budget. Donc, si Ezra Miller a été engagé en 2014 pour incarner Barry Allen, il aura fallu attendre presque 10 ans pour voir un film solo consacré aux super-héros qui d'abord apparut dans Batman vs Superman et Justice League. Les noms des réalisateurs en lice pour mettre en scène The Flash n'ont cessé de se succéder au cours des dernières années et les réécritures se sont elles aussi multipliées depuis 2017, repoussant sans cesse le tournage. En janvier 2020, il est annoncé que le film sortirait en France le 29 juin 2022. Mais il s'agissait encore d'un faux départ, car le long métrage d'Andy Muschietti a finalement débuté son tournage le 19 avril 2021 pour une sortie prévue le 2 novembre 2022, puis le 14 juin 2023. Et là, on y est.
Ça y est, c'est
là, on
parti.
Y est, enfin, ouais. Là, c'est bon. Là, je vous le dis, on va le passer. J'ai le film. Donc engagé donc pour incarner Iris West dans The Flash, à l'époque Rick Famuyiwa, j'espère que j'écorche pas son nom, qu'il avait dirigé dans Dope, était attaché à la réalisation du film. Kirstie Clemons avait fini par quitter le projet porté par Ezra Miller. L'actrice est finalement bien de retour dans The Flash, faisant d'elle la deuxième comédienne à incarner Iris West en chair et en os après Candice Patton dans la série Flash. Alors donc Superman et Wonder Woman, ils ont été mis un petit peu de côté. Donc The Flash devait contenir des caméos de Superman et de Wonder Woman incarnés par Henry Cavill et Gal Gadot. En décembre 2022, plusieurs articles rapportent que ces scènes ont été coupées, bien qu'elles aient été tournées. Il s'agirait là d'une autre étape vers la fin de l'ancien univers étendu de DC Comics, pour faire place au nouvel univers créé par les co-PDG de DC Studios, James Gunn et Peter Safran. Voilà un petit peu pour vous donner une petite idée de la complexité de l'aboutissement de ce gros projet qu'est The Flash.
Moi, je suis un peu perdu. Hein.
T'es un peu perdu
avec tous ces héros là.
Ouais, moi aussi, je m'y perds un peu. Héros, franchement, là. Quand je parle de DC Comics, je fais pas trop le malin. Je m'aventure pas. Et parce que c'est quand même assez complexe. Surtout que je pense que si on veut comprendre le tout, faut déjà être fan. Ce qui c'est pas mon cas. Hein. Et faut avoir suivi aussi tous ces films là depuis le début. Et il y en a pléthore. Donc moi je dis voilà, donc je vous brosse tout ça un petit peu en hauteur et puis j'espère que ce sera un beau film, The Flash. Il n'y a pas de raison, apparemment il est attendu.
Absolument, et puis il y a toujours ce public, hein, on le disait, alors c'est peut-être une partie de génération qui suit ça.
Absolument.
On est un petit peu décroché sur le sujet, mais je pense que effectivement il y a un public pour ça et ça marche beaucoup. Et en ce moment on en voit beaucoup de ces films. On a des super héros sur les écrans. Ouais.
On a des bonnes retombées déjà sur ces films-là en général. Alors évidemment, on l'aura en sortie nationale et il y aura une séance en version originale sous-titrée. Hein. Ça c'est une spécialité.
C'est bien la vidéo. Voilà. Ça
c'est les spécialités de la brèche et surtout d'Artec.
Hein. Ah oui.
Et de notre programmateur, voilà, qui fait des efforts et tout pour pouvoir brosser un petit peu tous les publics qui viennent, sachant que ici, soit tu as des jeunes qui sont vraiment fans de VO, ou tu as une grosse communauté anglaise ici. Hein. Mm. Il ne faut pas oublier. Hein. Quand ils débarquent, c'est en force. Hein. Donc The Flash déjà en VO, il sera le mardi 20 à la brèche à 18h. Pour les amateurs de VO, évidemment qu'il faut les voir en VO, c'est sûr. Mais après, pour des films comme ça, en sortie nationale, bon, c'est difficile de caler 5 ou 6 on va dire, séances VO, parce que je crois que c'est pas autorisé par les distributeurs, qui sont très regardants là-dessus.
D'accord.
Ah oui, oui. Mm-hmm.
Eh bien, c'est noté, hein, ce rendez-vous de Flash et interro écrite à la sortie du film, pour ceux qui iront le voir. Alors là, c'est un retour plus léger qui nous attend sur les écrans cette semaine, Pascal, avec une très très belle comédie, en tout cas j'espère, qui va réunir à l'écran une bande de potes, hein, je pense.
Exactement. On va revenir en France. On va parler de Sexygénaire, la dernière création de Robin Six, un film français d'1h20, c'est une comédie. Hein. Alors, Robin Six a réalisé en 2018 la finale avec Thierry Lhermitte et Ryan Bensetti. Ça parlait de tennis. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui.
C'est un grand-père un petit peu qui faisait un peu d'Alzheimer.
Oui.
Tu vois
oui, je l'ai vu ce film.
Tu l'as vu?
Oui.
Ça, j'en doute pas. Alors, au niveau des acteurs, on va trouver Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, Marie Brunel, Zinem Tricky, Grégoire Westermann, Olivia Cotte, Célia Pilastre et Xavier Robic. Donc à 60 ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L'un est encore beau, l'autre ne l'a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, qu'est-ce vraiment que d'avoir l'âge de la retraite aujourd'hui? Ça c'est une bonne question. Donc Sexygénaire, alors comment est le projet? La première version du scénario a été développée par Élise Larnicole, qui est une amie de Robin Six et qui jouait déjà dans la finale le précédent film du cinéaste. Ce dernier se rappelle et nous dit: il y avait des thématiques qui me touchaient par rapport à mes parents, à des amis, à cet âge dont je me rapproche. Sexygénaire est une comédie sur toutes les questions que l'on se pose à l'horizon de la retraite. S'arrêter de travailler, continuer, perdre nos liens sociaux, aimer encore mais différemment. Notre rapport à la vieillesse est chamboulé depuis une quinzaine d'années et les réflexions que ça suscite sont cruellement d'actualité. Je voulais aussi refaire un film avec Thierry Lhermitte et tourner avec Patrick Timsit. Avec Antoine Rimbaud, on a repris le scénario de départ en accentuant l'émotion des personnages en cherchant le mélange des tons comme dans la finale. On a aussi voulu trouver l'univers des comédies sociales des années 80, celle de Michel Blanc en particulier. Robin Six donc a fait appel à Jean-François Alain qui a écrit certains spectacles de Patrick Timsit et pas mal de films dans lesquels il a joué comme Paparazzi. Et le réalisateur confie: il connaît son phrasé, c'était du sur-mesure pour Patrick. Haroun a également contribué au dialogue, il est bercé comme Antoine et moi par les mêmes genres de comédies, c'est leur parfum qu'on a voulu retrouver. Nos deux personnages portent d'ailleurs les mêmes prénoms que le duo de Marche à l'ombre. Qui s'en souvient?
Je m'en rappelle.
C'était avec Gérard Lanvin.
Michel Blanc.
Et Michel Blanc.
Et Michel Blanc.
Avec une séduisante Sophie Duez.
Oui.
Et la chanson de Renaud.
Et oui.
Absolument. Très bien.
Et oui, c'était les mêmes.
Je crois qu'ils avaient même une R12 à l'époque.
Et New York avec toi aussi, la chanson de téléphone.
Exactement.
Elle était dedans. Ah, vous avez des meilleurs souvenirs que moi, les amis. Donc c'est une thématique récurrente, donc être un seigneur aujourd'hui est le point de départ des deux films de Robin Six, La Finale et Sexygénaire. Et comme il nous dit, la vieillesse me questionne autant que l'adolescence. La Finale était guidée par le regard d'un adolescent qui porte sur son grand-père. Il y a de ça dans Sexygénaire. Michel ne veut décevoir ni son fils, ni sa petite-fille. Denis est vu par sa fille comme un éternel adolescent. Les seigneurs touchent. Le cinéma a souvent traité de la vieillesse de manière dramatique, notamment à travers La Fin de Vie. Ce n'est pas mon choix, raconte le metteur en scène. Alors, Sexygénaire comporte une particularité. Donc, c'est la première fois que le milieu du mannequinat senior est montré dans un film. Et oui, il existe. Pas oublié.
On va pouvoir postuler.
On n'y est pas encore, mais ouais, ça ne saurait tarder. Et Robin Six donc, précise, cet univers m'a interpellé après avoir découvert que la maquilleuse de Thierry Lhermitte était devenue mannequin senior. Elle a commencé cette nouvelle carrière et ne travaille plus comme maquilleuse que par amitié pour Thierry. Elle a un compte Instagram suivi par des millions de personnes. Elle voyage tout le temps de New York à Moscou en passant par l'Afrique du Nord pour des shootings et des défilés. J'étais sidéré. Il y a un marché des seniors très lucratif avec des femmes de plus de 60 ans habillées hyper colorées avec des coupes incroyables et des hommes à la barbe rutilante. Ben oui, bien sûr. Ce sont tous les segments du marché. Finir, t'as toujours de la publicité. Donc, près de 30 ans après un Indien dans la ville en 94, c'est vrai que ça ne nous rajeute pas.
Mimicicu.
C'était quoi?
Il y avait Mimicicu.
Ah oui, c'était un gros succès, un Indien dans la ville.
Absolument, c'était ma première année aussi de travail ici à la Brèche. Leur premier film ensemble, effectivement, Robin Six a voulu reformer le duo Thierry Lhermitte Patrick Simsit. Le réalisateur explique. Je voulais les retrouver à l'écran, nourrir le film de leur complicité. Michel et Denis, je les ai écrits en tenant compte de leur évolution à tous les deux, de leur parcours d'acteur, d'homme public et de personne. Le film confronte ce que Michel et Denis étaient à 25 ans et ce qu'ils sont devenus. Le fait qu'ils soient des sexygénaires est un prétexte pour raconter une histoire des métiers sur 40 ans. Celle qui unit dans la vie Patrick et Thierry a nourri chaque scène. Personnellement, je crois à l'existence d'un lien indéfectible qui survit au temps et à des valeurs communes qui ne se dégradent pas. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film-là.
Ça donne envie.
Ouais,
j'ai vu la bande-annonce.
Moi aussi, j'ai bien aimé la bande-annonce. Voilà, je trouve qu'il y a des bonnes situations. Voilà, donc ça sera Sexygénaire, donc en sortie nationale, à découvrir donc à partir de mercredi à la Brèche.
Eh bien, on va passer un excellent moment et on va se refaire la bande-annonce sur Radio Grand-Terre.
Allons-y.
Alors la banque, comment ça s'est passé?
À nos âges, on ne prête plus.
Alors tu vas les payer comment les travaux?
Ah Michel! Quoi la brasserie?
Je me disais que je pourrais vendre mes parts.
Tu me dis ça il y a deux mois? Je t'ai dit oui tout de suite. J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce.
J'avais des parts dans ton mariage moi?
Tu peux pas comprendre toi, la tienne elle t'a tout laissé.
Elle est morte Denis.
Bah, j'ai pas eu cette chance moi.
Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin alors?
Ben non, je suis acteur.
Tiens toi droit, envoie un petit peu ton bide.
Vous savez, les sexygénaires, c'est très tendance.
Vieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote.
Bah, c'est peut-être pas le tien, hein. Et c'est payé combien, ton truc?
5 000.
Quel pro, Michel, c'est magnifique.
Tenez.
Ben non, on avait dit en cash.
Non mais Denis, 8 000 en cash, ça s'est jamais vu.
Ah ouais, 3 000 de com.
10%.
Le gros pourcent, alors. Hein.
Quoi? Tu dormais?
Mais je suis pas seul, Denis.
Oh, t'as tout compris, faut coucher pour réussir.
Mais tu fais le mannequin maintenant?
Le cintre, je dirais plutôt. Tu me donnes quel âge?
Et tu vas pas t'y mettre toi aussi?
T'attends quoi?
De tout perdre et de mettre tout le monde à la rue, c'est ça que tu veux?
On était à ça d'arriver.
Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous mets?
Tu t'es regardé, Denis?
Ah ouais. Parce que tu crois que ta gueule, elle vaut plus que la mienne?
T'es pas bon en chiffres, t'es pas bon en expression. T'es bon en quoi exactement?
En amitié.
C'est ton pote, lui?
Lui, hein? Mmh. Je le connais pas. Il me colle depuis tout à l'heure.
Voilà, on va passer un excellent moment, je pense.
Voilà, pour se détendre, franchement. C'est des petites comédies, ça, qui sont bien fréquentées ici à la Brèche. Les gens apprécient vraiment beaucoup, beaucoup.
On sera au rendez-vous, hein, Christophe?
Ah, moi, j'y serai. Hein.
Ouais, Christophe, c'est sûr. Oui. Je le sais.
J'ai déjà réservé ma place.
En plus, ouais.
Le prochain rendez-vous que tu vas nous présenter, Pascal, dans la sélection des six films cette semaine.
On va partir en Angleterre. On va parler d'un drame d'1h48, un film anglais, de Etty MacDonald. L'improbable voyage d'Harold Fry. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Jim Broadbent qui a le rôle d'Harold Fry. Penelope Wilton, Linda Bassett, Earl Cave et Joseph Middle. Donc le film il parle de ces tout juste retraités. Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. Lorsqu'il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui porter une lettre. Mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un périple, dans un improbable périple de plus de 700 km à travers l'Angleterre avec l'intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie. Au fil des rencontres inattendues et libératrices, Harold pourra-t-il se redonner une chance, point d'interrogation? À quoi vous fait penser ce scénario? Moi, ça m'a fait percuter sur un film qui ressemble un peu.
Ah ouais.
Un film de David Lynch.
Exactement. Une histoire vraie.
Ouais. Il sillonnait une bonne partie du territoire américain sur un tracteur.
Sur un tracteur tondeuse.
C'est vrai.
Il va rejoindre son frère. Et genre, ça m'a fait penser à ça. Et le film est d'enfer. Le film de Lynch. Il est grandiose.
Ah oui, oui, oui.
Il est grandiose. Parce que Lynch, qui était toujours assez extravagant, on va dire, dans ses scénarios.
Ah bah, on était sur autre chose, là.
Oui. Ça partait un peu loin. Là, il a fait du terre à terre. Et ses deux frères qui ne s'étaient pas parlé depuis des décennies.
C'est ça, il allait voir son frère.
Ouais. Et oui, oui, c'était bouleversant, ce film-là. On est un petit peu dans le même schématique. Et je trouve ça chouette parce que moi, j'aime les road movies. Je trouve ça super.
Mais tu vois, regarde, on vient de parler d'une comédie sur les seniors, et là on est sur un autre film qui parle du thème des retraités, ouais. Mais voilà, d'un autre point de vue, donc on...
Exactement, ça sera la semaine retraite.
Exactement.
Et cette semaine à la brèche.
Et la semaine de la retraite. Semaine, on prend sa retraite.
Alors évidemment, d'où vient cette drôle d'histoire, d'où vient-elle? Eh bien, d'un roman. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi... Et le premier roman de Rachel Joyce, il a rencontré un succès fulgurant en Angleterre et partout dans le monde. En France, il s'est vendu à plus de 160 000 exemplaires. Et la réalisatrice Etty MacDonald explique « J'espère que les spectateurs seront tout aussi émus par ces acteurs et qu'ils percevront à travers leur jeu le fait qu'il est essentiel d'aller vers les autres et de nouer des liens avec les êtres et les liens autour de soi. Il s'agit d'une magnifique histoire, pleine d'espoir, qui nous pousse à faire preuve de courage, à s'aventurer dans l'inconnu, même quand celui-ci est un peu effrayant, pour affronter ce qui nous terrifie. L'improbable voyage d'Harold Fry nous apprend que la vie peut changer et qu'avec une certaine foi dans l'avenir, le meilleur peut arriver. » Voilà une belle histoire, pleine d'espoir. Donc, qui pour le héros? Alors, comme il avait été choisi pour enregistrer l'audio-livre, tu vas voir, mais il se retrouve devant l'écran, l'acteur. Il a été choisi pour enregistrer l'audio-livre au moment de l'apparition du roman. Donc, Jim Broadbent s'est imposé dans le rôle.
D'accord.
Direct. Mais oui, parce que si tu regardes bien le casting, enfin, moi, je vois pas trop d'acteurs super connus. Et c'est ça qui me plaît bien dans certains films, justement. Ce sont des acteurs, voilà, qui sortent un petit peu de l'ombre et tout.
On peut être agréablement surpris.
Exactement. Donc quand Etty MacDonald a découvert le roman de Rachel Joyce, elle l'a immédiatement trouvé attachant. Rachel y aborde la souffrance, le deuil, la culpabilité et la réparation. Et comme elle nous dit, j'ai décelé des thèmes majeurs et profondément universels. Et Harold m'est apparu comme un héros extraordinaire. En s'aventurant courageusement dans l'inconnu, il montre qu'il est possible d'aller vers la guérison lorsqu'on fait confiance au destin, se rappelle-t-elle. Alors comme l'essentiel du récit se déroule dans l'esprit d'Harold, la plus grande difficulté dans la conception du film consistait à faire comprendre ce qui se passe sans passer systématiquement par le dialogue. Et Etty MacDonald précise « Quand on m'a envoyé le scénario, ce qui m'a frappé, c'est qu'on pouvait exprimer beaucoup de choses visuellement. Harold est un être extrêmement tourmenté et déchiré, mais son périple est sentimental, voire poétique. D'un point de vue cinématographique, c'était une occasion formidable d'être au plus près d'un personnage et de s'attacher à ses pas tout au long de son parcours. » Alors, dans le roman, la nature joue un rôle central, évidemment. Il va traverser 700 km d'Angleterre, c'est pas rien, c'est quand même beau. Hein. Donc, la nature joue un rôle central, donc, tout comme les paysages, si bien que l'Angleterre et les autres personnages a aidé Etty MacDonald dans la réalisation du film. Et comme elle nous dit, je me suis dit que le meilleur moyen de s'y prendre consistait à faire nous-mêmes le voyage, si bien que Kate McCulloch, notre directrice de la photo, et moi avons pris la route et parcouru le périple d'Harold de Kingsbridge à Berwick, Upon Tweed.
C'est où ça?
Je ne sais pas. Mais Rec Tweed.
On aimerait savoir exactement où ça se trouve.
Rec Tweed, j'imagine que c'est l'Écosse.
Ah oui, d'accord.
Je crois. C'était un formidable apprentissage de voir l'évolution des paysages et des villes à mesure qu'on se dirigeait vers le nord. Ah, tu vois? Et cela nous a permis de comprendre la nature du voyage d'Harold. Au bout du compte, c'est ce voyage qui nous a convaincu qu'il fallait tourner le film dans la continuité chronologique. Donc, Etty MacDonald a choisi les lieux de tournage et les plans en fonction de ce qui lui semblait convenir pour le paysage émotionnel d'une scène. et la cinéaste raconte. Et comme nous tournions dans l'ordre, Jim était en mesure de s'endurcir à mesure qu'il évoluait à travers la campagne. Un grand acteur doit se glisser dans la peau du personnage, ce qui se voit à l'image. Heureusement pour nous, nous avions Jim Broadbent. C'était très fort visuellement parce que c'était vrai. Jim avait le visage buriné, il traversait vraiment la campagne à pied.
Ah bon ?
Je répète, il traversait vraiment la campagne à pied. En plus, il tournait. Son expérience a magnifiquement nourri son jeu. Elle est pas belle, cette histoire ?
Non, c'est clair. Hein.
Franchement, c'est de l'immersion totale. Voilà, à cause de tout ceci, je vous invite vivement à venir découvrir l'improbable voyage d'Harold Fry. Évidemment qu'on va le jouer en VO. On le joue aussi en VF.
Non, il faut le voir en VO.
Mais évidemment qu'il faut le voir. Il faut le voir en VO, bien sûr, bien sûr. Donc ça sera à découvrir à la Brèche cette semaine.
Voilà, soyez curieux et je pense que vous allez adorer. On va revenir sur un autre rendez-vous français, cette fois-ci, une autre comédie. Ça s'appelle Le Processus de Paix. On va instaurer quelques règles, paraît-il, entre deux personnes.
On va partir dans le couple. Les couples qui font pas trop bien, moins bien, on va dire. C'est un film français d'une heure 32, c'est une romance, comédie dramatique de Ilan Klipper. Au niveau des acteurs, on va retrouver Camille Chamou, Damien Bonnard, Ariane Ascaride, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et une autre aussi, Jeanne Balibar. J'aime beaucoup cette actrice, hein, très distinguée.
Avec une voix un peu particulière.
Ouais, exactement, oui. Très suave et tout. Elle a une voix de radio, Jeanne Balibar,
on va l'inviter.
Elle pourrait faire de la radio.
On va lui passer un coup de fil après.
Sabrina Sevoku, Sofiane Kames, Quentin Dolmer et Laurent Poitrenon. Quand on s'aime et qu'on ne se supporte plus, que fait-on ?
On s'en va.
Non.
C'est pas ça.
Marie et Simon sont profondément amoureux malgré les disputes constantes dans leur vie de couple. Pour ne pas se séparer, ils se lancent dans une aventure un peu folle, établir une liste et des règles qu'ils devront suivre coûte que coûte. Ils l'appellent la charte universelle des droits du couple.
Ah, c'est original.
C'est original, mais ça, je demande à voir les chartes dans le couple. Moi, je veux bien. Donc, le processus de paix est né de la question suivante. Comment fait-on quand on s'aime et qu'on ne se supporte plus ? C'est lors d'un rendez-vous donc entre Ilan Klipper et Camille Chamou, qui avaient déjà travaillé ensemble dans Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et Funambule, que le projet a vu le jour. Le réalisateur se souvient. Elle me confie son envie d'écrire un scénario qui s'appellerait La paix. Elle voulait partir de cette idée que dans un monde déjà assez dur et où tu aspires à un peu de calme en rentrant chez toi, la guerre continue à la maison avec celui ou celle qui partage ta vie. On était tous les deux en couple à se poser les mêmes questions. On en a discuté toute la soirée. Puis on a commencé à se revoir régulièrement pour en parler et on s'est lancé dans l'écriture. La charte. Ah. La charte. La charte utilisée par le couple est inspirée d'une expérience qu'avait fait Camille Chamou avec son compagnon à qui elle avait fixé 15 jours sans la moindre engueulade sous peine de se séparer. Mais cette charte a vraiment pris forme lors d'une rencontre avec un ami de l'actrice qui avait fait appel à Coparent, un site de rencontre pour devenir parent. Je savais pas que ça existait. Il met en relation des personnes qui souhaitent procréer sans être en couple ni vivre ensemble et établit une charte qui fixe, avant même la naissance de l'enfant, les règles entre les deux parents. Ça a tout de suite fait tilt en nous. On a d'ailleurs repris tel quel dans le film le moment où il nous a expliqué que la plupart des gens qui font des enfants, portés par leur histoire d'amour, ne réfléchissent pas en amont à comment ils vont les élever. Et quand l'enfant arrive, les problèmes s'accumulent car on se rend soudain concrètement compte que les deux visions sont différentes, explique le réalisateur. Alors le processus de paix traite des problèmes de couple par le biais de la comédie plutôt que par celui du drame. Ilan Klipper, qui a longtemps écrit des drames, a eu un déclic lorsqu'il a commencé à écrire un projet de comédie avec Vincent Dietschy. Et s'il n'a pas abouti, il lui a donné envie de continuer à écrire dans ce registre. Et comme il nous dit, écrire des comédies pour prendre du plaisir et rendre la vie encore plus joyeuse. Pas pour écrire des blagues, mais des situations et des personnages qui nous font dédramatiser, nous font sourire de nos problèmes existentiels. Avec Camille, l'alliance était donc parfaite. Et l'idée de la comédie s'est d'autant plus spontanément imposée par le processus de paix que je n'avais aucune envie de filmer des embrouilles de couple au premier degré sans humour. Ça aurait été trop plombant.
C'est original.
Le film est pas intéressant. Ouais. Donc, pour ceux qui se chamaillent un petit peu en couple, pourquoi pas aller venir piocher des idées.
On est loin de la guerre des roses.
On est loin carrément, oui, oui.
Un film où il se déchirait, là.
Il n'y avait pas beaucoup de chartes dans la guerre des roses.
Voire pas du tout. Donc le processus de paix, évidemment, on l'aura en sortie nationale à la Brèche, donc cette semaine, à découvrir.
Mais alors, avec tous ces films qui sortent, à quel moment on va travailler?
Ben, moi j'y suis, déjà.
Détente absolue. Eh bien, on va découvrir ensemble, les garçons, justement, un extrait de la bande originale de ce film, Le processus de paix.
Tu te souviens, Simon, la promesse qu'on s'était faite quand on s'est mariés? On s'était dit qu'on passerait toute notre vie ensemble, quoi qu'il arrive. C'était juste notre pacte. Trouver des solutions, ensemble et toujours.
Je demande juste d'habiller le petit, 5 secondes pour me donner un coup de main, c'est si grave en fait.
Tu parles d'une organisation, hein.
Ouvre-nous la porte, toi, au lieu de nous faire chier.
T'as oublié le biberon. Là, tout part en vrille, hein. Non, moi, je vous jure, je vais pas tenir longtemps à ce rythme-là. C'est quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi c'est autant la merde?
Oh, tu peux dire à ton fils qu'on est pas sur un terrain de foot aussi?
Maintenant. Mon chéri, ça va? Ça, mais t'as vu ta gueule?
Comment c'est possible de pas laisser d'espace aux dents comme ça?
T'as une hostilité de ouf.
C'est plus possible qu'on se parle comme ça.
Je crois que j'ai peut-être une solution. Charte universelle des droits du couple.
Alors, pour commencer, les insultes sont interdites.
On ne mord pas son conjoint.
On ne ment pas. On se dit merci.
Jamais s'endormir fâché.
Et moi, j'ai la règle numéro 8. Baiser ouais, beaucoup plus, rajoute le beaucoup. À la paix.
Waouh. J'ai l'impression qu'on a découvert le calme. Eh ben oui, enfin, vous avez reniqué.
Pendant ces 50 ans que nous allons survoler, nous verrons qu'il y a eu de nombreuses tentatives de paix. Mais à chaque fois, un élément est venu enrayer le processus.
Passer toute sa vie avec la même personne, c'est une névrose.
Ouais, c'est pareil.
Mais n'importe quoi, vous arrêtez pas de vous bécoter depuis qu'on est arrivé.
Ouais, parce qu'elle a des blocages, hein, ta sœur. Tout niveau cul.
Pas une levrette.
C'est ma sœur, hein.
Ah, j'ai trop besoin de la règle numéro 2.
Non, mais attends. C'est moi que tu dois embrasser.
Tu vaux pas un clou. Tu feras jamais rien de valable dans ta vie.
Vous en avez pas marre de vous victimiser comme ça? Ce que je te propose, c'est qu'on se dise, une fois pour toutes, vraiment ce qui nous crispe. Et on se dit tout. Ça te va ou pas? Tu veux commencer? Ok, donc j'y vais.
Voilà, à voir donc cette semaine sur les écrans de la Brèche, processus de paix avec bien sûr la charte à respecter à la lettre.
Oui, si on s'entend pas bien. Mais si on s'entend bien, il n'y a pas besoin de charte.
Oui.
Et oui.
C'est vrai.
C'est encore
vrai,
mieux, c'est... je te dirais.
Allez, on va déguster un plat là maintenant.
Alors non, c'est pas un crustacé avec du fruit. C'est un... Le surnom d'un voyou.
Ah, Omar la fraise.
Il s'appelait Omar la fraise, absolument.
Moi, je connaissais Cacahuète.
Ouais, je l'ai pas connu.
Cacahuète.
Donc, Omar
c'était dans Peur de la ville. Peur, dans
Peur sur la ville.
Cacahuète.
Cacahuète.
Avec Belmondo.
Quand ils arrivent dans le bar au début.
Oui.
Ils demandent un renseignement au patron du bar qui voulait pas lâcher le nom de Cacahuète.
Ah.
Attends. Il balance une photo et...
Ah oui, oui, oui.
Cacahuète. C'était un loup-bar.
D'accord. C'est la scène avec Belmondo quand il rentre dans le bar.
Ah oui, au départ, oui.
Et ça finit avec des gifles, c'est ça.
Ah oui, c'est
et
ça, ouais.
Il se coupe dans tous les sens. Ouais, ça, je vois.
Et quand il descend dans une cave.
Oui, il descend dans une cave. Hein.
Mais c'est une boîte de nuit. Peur sur la ville, il descend dans une boîte de nuit homo.
Ah non.
Ah non, non, c'est, tu, non, non, c'est le marginal, ça.
Ah, je confonds avec le marginal. Oh là 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 là
là. Oh là là, si tu, si tu confonds les films de Belmondo.
Désolé. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement.
Ah, il y a des cascades.
Il y en a tellement.
Alors, Omar la fraise.
Omar la fraise, oui, bien sûr. Un film français d'1h32. C'est un drame d'Elias Belkédar.
Un drame?
Oui, c'est un drame.
Avec un titre pareil?
Oui, oui. Oui, oui, c'est dramatique. Au niveau des acteurs, on va retrouver Reda Kateb.
J'adore.
On va retrouver le. Ouais, oui, très bon acteur. On va retrouver le duo Reda Kateb, Benoît Magimel.
Ah oui,
Magimel,
excellent.
Hein. J'adore.
Myriam Amar, Haroun Atalla, Amani, Ben Tarki, Maria Bentoumi et Bilal Bouzidi et Zina Bouzid. Donc, Omar, plus connu sous le nom d'Omar Lafraise, est un bandit à l'ancienne. Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles accompagné de son illustre acolyte Roger. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie, alors qu'ils n'ont vécu jusqu'à présent que dans la débauche et la violence. Donc, évidemment, c'est un surnom de voyou assez étonnant, oui, effectivement. Donc, tous les
voyous, c'est plus léger.
Non, c'est quand même plus léger, ouais. Mais enfin, si tu grattes un peu, c'est la pègre quand même qu'il y a dessous. Ouais. Donc tous les voyous ont dans la vie et au cinéma des surnoms imagés, parfois amusants, évidemment utilisés pour cacher leur véritable identité. Ces dominations sont d'une poésie violente. Derrière elles se cachent du drame, de la terreur, mais aussi du dérisoire, de la tendresse. Je voulais inventer, comme nous dit le réalisateur, mon propre nom de voyou, un nom porteur de légende, explique le réalisateur. Alors évidemment, le casting, il était au réclite. Hein. Le casting du film est composé de comédiens professionnels et amateurs, afin de profiter de rythmes et d'énergies différents pour filmer des nuances de langue, de culture, de croyances religieuses. Pour le réalisateur, il s'agissait aussi de faire une déclaration d'amour à l'Algérie en représentant un maximum de nuances culturelles. Et comme il nous dit, travailler avec des comédiens non professionnels, c'était bien parce que chaque Algérien est un acteur. Tout le monde raconte et se raconte dans ce pays. Il y a des choses dans le film qui peuvent paraître de la réalité augmentée, mais c'est la réalité. C'est vu, vécu, entendu. Les amateurs jouent souvent leur propre rôle, affirme Elias Belkeda. Noureddin Kateb a accepté le projet en 24 heures. Quant à Benoît Magimel, il a proposé au réalisateur de prendre un café sans avoir lu le scénario. Elias Belkeda se souvient. Puis, au bout de 15 minutes, il m'a dit « Vas-y, je t'aime bien, je le fais. » Ah, quand même. Après, il a lu le script et on a travaillé ensemble. L'Algérie, ça l'intéressait. Alors, Omar Lafraise mêle le rire et l'horreur, le calme du désert et le chaos de la ville, le dérisoire et la flamboyance. Ces alliances paradoxales proviennent de récits du père et de la grand-mère d'Elias Belkedar. Et comme il nous dit, j'ai grandi au sein d'une famille qui avait sa propre façon de vanner, de parler, d'entendre des histoires a priori dramatiques, relatées avec ironie et vitalité. Je retrouve ça dans tout le bassin méditerranéen, ce besoin de se raconter, d'oraliser, de jouer sur le tragicomique en permanence, tout le temps au quotidien. C'est assez classique finalement, ce réflexe d'exposer tout ce qui est affreux de manière joyeuse, transgressive et corrosive. Ouais, c'est vrai, moi je retrouve aussi un peu... Moi j'ai un peu de famille, pieds noirs. Ouais, c'est vrai, des fois c'est du théâtre. Même quand c'est dans la dramatique, c'est du théâtre. Voilà un petit peu le pour vous parler et vous éclairer un petit peu du film que nous aurons à la Brèche cette semaine. Donc Omar Lafraise à découvrir à la Brèche cette semaine.
Avec de très bons acteurs, hein, on disait, dans ce film.
Mais Magimel et Reda Kateb.
Ah ouais, Reda Kateb, oui, bien sûr. Et Benoît Magimel aussi.
Et Magimel, c'est une succession de bons films hein, depuis quelques années.
Pratiquement. Il y a des films qui sont passés à la trappe. Mais on va dire le trois quarts, oui bien sûr. Le trois quarts,
il a reçu des prix.
Oui, bien sûr. Et surtout qu'en plus, Madame Gimel, on l'avait dit une fois, hein, il a tourné enfant déjà. Enfant, il était déjà acteur.
La vie est un long fleuve tranquille.
Absolument. Ouais, oui.
Très bien. Ouais, oui.
Exactement.
Un punch.
Comment il s'appelait dans le film? Moi, je me souviens plus.
Oh, c'était un nom un peu particulier, oui. Je crois.
Ça me reviendra peut-être un peu
dans la prochaine émission.
Et c'est vrai que Magimel a souvent joué dans des films assez durs. Hein,
ouais,
dans
des policiers.
Ouais, des films.
Du truand aussi.
Ouais,
hein.
Des truands, comme ouais. Carbone. Hein, Carbone, excellent oui. Film. Hein.
Carbone, exact.
La French, hein, enfin, on ouais. Va oublier avec la French.
Également.
Voilà, donc on va écouter la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Omar Zalouri, plus connu sous le nom d'Omar Lafraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut.
T'as une bonne nouvelle?
La patrie de ton père, Jazeera, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazeera, wallah, ça m'émeut.
Ah, je vais pouvoir crever ici.
Mahda bik Jazeera.
C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France.
Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'autre?
Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges l'oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard.
Omar, Roger, Allah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser?
Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille.
Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire.
Qu'est-ce qu'il a? Ça me rappelle quelqu'un.
Vous êtes des durs, hein?
Il aime le hôte.
Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé.
Hé hey, frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme.
Sans volta y a chico.
De la joie de vivre.
Je veux qu'il chute à plus, moi.
Et ses racines, je veux qu'il renoue avec.
Santé.
Ouais.
C'est même pas, on bosse, ça suffit.
Yahoo! Pourquoi on l'appelle Omar Lafraise?
Parce qu'il opère ta dentiste.
Voilà, donc à voir absolument Omar la fraise.
Ah, t'as vu, ça n'a rien à voir avec le fruit. Hein.
Ah non, mais c'est sûr. C'est... non, je pense que c'est un film, là aussi, on va apprécier sur les écrans cette semaine. Et bien sûr, En Pays Faurien, La Brèche, dans l'une de ces trois salles, on le rappelle.
Absolument.
Oh, on arrive...
Avant d'arriver à notre invité,
eh oui.
Je vais vous préciser quelques dates.
Ah oui, très important, ouais.
Important. Déjà, la fête du cinéma qui se profile, évidemment. On
ah oui, déjà
juin. Oui, oui, la fête du ciné.
C'est pour l'été, ça,
ça c'est... Non, c'est pas pour l'été, alors c'est marrant.
C'est un petit peu avant.
Ou... Les années avant, précédentes.
Ça se faisait pour le 21.
C'était au mois de juin.
Exactement. C'était fin juin.
Après la fête de la musique.
Ah oui, c'était fin juin. On était plus vers le 28, 29, 30, voilà. Ici, c'est un petit peu différent. Ça va commencer le dimanche 2 juillet. Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5. Voilà.
Au début, je me rappelle, la fête du cinéma, c'était une seule journée. Hein.
Ouais. Mais là, ils veulent dynamiser. Si vous voulez, ils veulent dynamiser un petit peu le marché. Et puis, je trouve ça bien parce que c'est une période où le mois de juin, où toute la fréquentation qui chute. Et là, ça, c'est bien parce que c'est à tarif, c'est 5 euros. Ça sera 5 euros, la fête du ciné. Et là, vous pouvez venir dévorer tous les films que vous voulez. Voilà. Ouais. Et on va reprendre Les Trois Mousquetaires, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou ceux qui veulent le revoir. On va aussi, il y aura aussi dans la boucle le Indiana Jones.
Ah, très bien.
Et oui, ça tombe sur le mercredi 5.
On sera là.
Ah, oh bah oui.
J'y pense bien. Il y aura aussi le mercredi 5 à 20h30. Alors, on ressent Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qu'on jouera donc le mercredi 5 à 20h30. Hein. C'est une soirée spéciale. Et une autre date qui n'a rien à voir avec la fête du cinéma et qui est un petit peu postérieure, ça sera le mardi 11, l'avant-première de.
Ah, c'est Mission Impossible.
Non. C'est quoi? Un dessin animé?
Exactement, Mission Impossible, Dead Reckoning. Oui, Dead Reckoning, partie 1.
Le 11 juillet.
Ah oui, la partie 1.
Le 11 juillet, monsieur, absolument. Dead Reckoning, part 1.
Il y a deux parties.
Ah, il y a deux parties.
Ils sont malins.
Mais tu sais, non, mais t'as remarqué, je l'avais dit. Je sais pas si c'est un pied de nez aux séries Netflix et compagnie, mais maintenant, là, le cinéma dit, nous aussi, D'Artagnan est en deux parties. Et ça permet aussi d'accrocher le public.
Le dernier Avengers, il y avait deux parties. Mais ça veut dire que c'est peut-être un final aussi. Il y aura peut-être pas d'autres missions impossibles avec Tom Cruise.
Peut-être. Mais tu sais, quand tu fais des parties 1, ça te permet d'accrocher le public. Il a vu le 1. Tu sais que Tom Cruise, il se plante jamais.
Après, on sait que Mission Impossible, on sera pas déçu généralement.
Absolument. Donc, il va accrocher le même public pour le 2, voire plus d'ailleurs.
Ouais. Voilà. Et puis c'est pareil, si tu fais tout dans une fois, ça peut être long aussi.
Ça peut être long. Alors ici, le film, quand même, il fait 2h45.
Il
faut rester patient. Mais bon, tu t'ennuies pas.
Non, mais la deuxième partie, il fait 20 minutes.
Ah, puis, ouais, voilà.
C'est plus simple.
À peine. À peine. Non, mais c'est vrai, 2h45, oui, c'est sûr que... Oui. Mais donc voilà, donc, je répète la date, ça sera le mardi 11 juillet, ça sera une avant-première.
Hein. On sera là.
J'espère bien.
Parce que le film, il sort, du coup...
Il sortira le lendemain.
Ah oui.
C'est
une avant-première.
Alors, ma programmation s'arrête le 11, là, donc j'ai pas le 12 et compagnie, mais oui, bien sûr. Donc voilà. Très bien. À découvrir La Brèche.
C'est noté pour cette fête du cinéma, décalée, à début juillet, juste avant de partir
en vacances. On parle de déjà à mi-juillet. Oui, avant de partir en vacances. C'est vrai, oui. Bon, on en parlera encore un peu plus tard.
Alors nous avons un invité.
Ah oui, de marque.
Ah bon, voilà,
oui.
Un foyen. Et
qui
fait le tour du Périgord en ce moment. Qui a fait le tour du Périgord il n'y a pas longtemps.
Donc, qui a fait.
Oui.
Qui a fait une petite visite dans un château.
Une petite journée au château de Biron, oui.
Voilà, exactement.
Christophe, raconte-nous ton histoire.
Bah c'est tout. Voilà.
Pour poser un petit peu le décor, tu es allé faire de la figuration pour un téléfilm, donc qui sera proche, qui sera
pour
2024.
Normalement début 2024. C'est Fortune de France. La série s'appelle Fortune de France. C'est tiré donc des romans de
Robert Merle,
merci Pascal. Et donc c'est réalisé intégralement en Dordogne. Donc le tournage a commencé au mois de mars et se termine fin juin, principalement du côté de Sarlat, même s'ils ont évidemment tourné dans des endroits complètement différents. Et donc moi j'ai eu la chance de faire de la figuration donc le 23 mai dernier pour Fortune de France, donc en habit de bourgeois protestant. Et donc c'était deux séquences qui se tournaient au sein donc du château de Biron. Voilà. Donc c'est une expérience, quand on aime le cinéma, c'est une expérience exceptionnelle.
Et oui.
Moi, j'ai vécu une journée magique, complètement.
Ouais, c'est ce que tu m'as dit.
Fatigante parce que on arrive le matin, quand même à 6h du matin, pour se costumer, maquiller, coiffer. Donc il y avait 120 figurants ce jour-là pour la journée de tournage. Donc beaucoup de monde à costumer. Et puis après, donc on attend. On attend que le tournage démarre vers 10h. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a le temps de voir justement comment ça se met en place.
Ouais.
Donc le décor qui se construit, les équipes qui arrivent au fur et à mesure, les équipes techniques. On voit les machinistes qui mettent en place le travelling. On voit le réalisateur qui arrive, on voit les comédiens qui arrivent. Et puis voilà, quoi, c'est parti. Donc l'installation des caméras pour tourner les deux scènes et puis le tournage toute la journée, quoi, de 10h jusqu'à 17h avec une petite heure de pause pour aller déjeuner, mais sinon on est voilà, moi j'ai vécu un grand moment puisque je suis fan de cinéma, de vivre une expérience comme ça c'est formidable. C'était pas ma première expérience en tant que figurant, puisque j'avais déjà fait de la figuration en 90-91 en tant que protestant, une fois de plus, pour la Reine Margot. Donc c'était le film de Patrice Chéreau qui se tournait
Bordeaux.
Alors là ça se tournait moi dans ma Picardie de naissance. Donc c'était la scène du mariage. Donc ça se tournait dans la basilique de Saint-Quentin dans l'Aisne.
Ah d'accord.
Voilà. Donc là aussi c'était vraiment une grosse scène à tourner. Donc avec tous les comédiens principaux. Donc Isabelle Adjadi, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Pérez. Enfin bon, voilà, Pascal, tout le monde était réuni. Pascal Grégory. Voilà. Donc c'était
Virnalisi.
Exactement. Oh, Monica Vitti aussi, je crois. Non.
C'était
pas Monica Vitti aussi qui jouait la.
Alors Virnalisi jouait Catherine de Médicis.
Alors donc je me trompe alors. C'était Virnalisi, d'accord. Donc voilà, oui, bon, pour revenir à Fortune de France, voilà, c'était vraiment une expérience assez incroyable. Donc la série réalisée par Christopher Thompson, qui est le fils de Daniel Thompson et le petit-fils de Gérard Rouy. Donc c'est pas rien, qui vient de réaliser d'ailleurs pour France 2 ou France 5, je sais plus, Bardot.
Oui, c'est
donc
ça.
avec sa maman.
Oui.
Voilà,
oui,
c'est passé là récemment à la télé.
Ouais.
Et donc les comédiens principaux, c'est Nicolas Duvauchel, il y a Grégory Guy, il y a Grégory Fitoussi, Guillaume Guy, pardon. J'ai dit Grégory, c'est Guillaume Guy. Et les deux, et donc là un des deux fils du héros principal qui est interprété par le fils même de Christopher Thompson. Voilà, donc une journée inoubliable, même si je le répète, c'est très très fatigant parce qu'on est debout pratiquement toute la journée, donc
c'est l'attente.
Voilà, c'est beaucoup d'attente. Il faisait super chaud ce jour-là en plus, mais c'était vraiment un moment magique dans ce château incroyable du château de Biron.
Alors j'ai quand même une question importante, c'est alors évidemment, je t'ai fait venir pour que tu nous racontes ton expérience, mais je voulais aussi que tu nous donnes un petit peu la démarche pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est-à-dire si un jour ils ont envie de faire de la figuration, on va dire, sur un plateau en Dordogne ou ailleurs. Quelle est la démarche?
Alors,
il
faut suivre les annonces. Hein. Moi, c'est une annonce qui.
C'était une annonce
qui était passée sur Facebook. Après, ça passe dans les journaux locaux, Sud-Ouest.
Ouais.
Bon, après, il y a des sites qui existent aussi, hein, des sites de figuration où on peut s'inscrire. Et puis, parce qu'il y a énormément de tournages en Aquitaine.
Ah oui.
C'est époustouflant.
C'est le nombre de tournages.
Donc, faut suivre. On répond à un casting. Donc, moi, j'avais été faire le casting sur Bergerac au mois de février, je crois.
D'accord.
Il y avait eu deux journées de casting où là on se présente, on remplit un questionnaire, on vous prend en photo, on prend les mensurations pour l'habillage costume, voilà, si jamais on est pris. Et puis après on attend. On sait pas si voilà, on attend. Moi j'ai eu une réponse au mois de mois d'avril, je crois, avril ou début mai. Avril.
Ouais, c'est 2 mois après.
J'ai reçu un SMS pour me dire que voilà, j'étais pris pour une journée du 23 mai et il fallait essayer les costumes. Donc là, oui, se rend. Là, il faut se rendre sur Sarlat pour aller essayer les costumes. Ouais. Donc là, déjà, c'est une première expérience, c'est incroyable parce que faut se dire aussi que les équipes, il y a vraiment une bienveillance de la part de toutes les équipes techniques. Là, en l'occurrence, quand il a fallu aller se costumer, essayer les costumes, on est vraiment très très bien accueillis et puis voilà, on est pris en main, donc c'est ça aussi, faut le dire, hein, on est chouchouté, hein, sur un tournage.
Ça, c'est chouette parce qu'on a tendance à croire que ce sont que les acteurs qui sont
chouchoutés. Non, on est chouchouté.
Ça, je suis vraiment content de l'apprendre.
On s'occupe de nous en permanence. Ouais. S'il y a jamais il y a un faux pli ou il y a quelque chose qui sort, on vient nous rhabiller, on nous apporte de l'eau, on nous maquille si jamais il y a, voilà. Donc c'est vraiment il y a vraiment une bienveillance, voilà, et un dévouement de la part de toutes ces équipes, parce qu'il y a un monde incroyable sur un tournage, surtout sur un tournage de film historique comme où il y a les costumières, il y a les maîtres d'armes, il y avait un combat ce jour-là, donc un duel entre les deux frères, donc il y a les cascadeurs aussi qui sont là pour
et les chevaux, tout ça, les
voilà,
animaux,
donc on reconstitue un marché, un village médiéval, donc
Ça, c'était au sein du château ?
Ah oui.
C'était
dans la cour du château.
Dans la cour du château, d'accord.
Voilà. Et donc là, on voit vraiment le travail en amont, dans l'ombre, de la construction d'un film, quoi. C'est pour une séquence qui va durer 3 minutes à l'écran, hein, Donc, voilà, à peu près 8 heures de tournage pour.
Ah oui, c'est énorme le travail
c'est,
autour.
Hein, c'est, ouais. C'est époustouflant.
Et des fois, les scènes sont pas gardées parce que le montage.
Ça peut partir.
Ce qu'on a tendance, on en parlait aux antennes tout à l'heure. En fait, c'est des heures et des heures et des heures de rush. Et après, le travail du
montage.
Le film, il commence à naître au montage.
Ah oui.
Qu'il commence à s'articuler, quoi.
Donc voilà, donc la démarche, c'est de surveiller les annonces, les offres, ou d'aller sur les réseaux sociaux, hein, y a pas mal de relais, hein.
Et donc c'est rémunéré.
Ouais, c'est rémunéré. Alors là, c'était rémunéré. Il y a des rémunérations, c'est différent si c'est un film pour la télévision ou si c'est un film pour le cinéma. Généralement, pour le cinéma, c'est un petit peu plus, un peu mieux payé, on va dire, mais après, on fait pas ça du tout pour la rémunération. Voilà. Moi, je sais.
Non, mais j'imagine, ouais.
C'est de vivre l'expérience vraiment d'un tournage ça, c'est capital.
Et en plus, c'est une immersion. Parce que là, tu te retrouves avec des gens tous en costume d'époque.
Ah non, mais
c'est une immersion totale. Comme quand tu te retrouves au milieu de la foule,
La pause déjeuner, c'était extraordinaire parce qu'il fallait.
C'est en costume.
Il fallait sortir du château surtout. Donc tous les figurants, les 120 figurants sortent du château pour aller déjeuner donc dans le bas de Biron.
Ouais.
Donc t'imagines 120 figurants costumés qui dévalent. Donc là, c'était surréaliste.
Ouais.
Mais c'est vraiment des expériences inoubliables. Et puis voilà quoi. Donc moi je sais que je surveille les.
Oui, c'était ma question suivante. Casting. T'es sur quel coup après tu vas où t'as déjà quelque chose en ligne de mire?
Alors j'ai postulé. Il y avait un tournage qui se passait sur Marmande là mai-juin avec Pierre Richard. Voilà. Donc alors maintenant c'est. Là sur le Fortune de France, il y avait un casting en réel, on va dire, mais c'est pas souvent. Voilà, aujourd'hui, maintenant, on demande juste d'envoyer une ou deux photos par SMS avec nos coordonnées, et puis voilà. Donc, c'est pas obligatoirement un casting qui va se faire en réel, quoi. Donc, de plus en plus de castings se font comme ça maintenant par dématérialisé, on va dire.
Mais j'imagine parce que ça coûte moins cher.
Bah oui.
Ça va plus vite. Aussi.
Voilà.
Ça va plus vite. C'est vrai que je pense que les castings c'est vraiment pour les premiers rôles, second rôle, là effectivement ça rigole pas quoi. Mais c'est une super expérience. Alors voilà. Je voulais vraiment que tu m'expliques la démarche vraiment pour tous ceux qui ont envie de tenter l'aventure parce que c'est une super aventure. Toi t'as mis le pied vraiment dans une production vraiment d'époque, qui parle d'histoire, hein, puisqu'il parle d'histoire locale en plus. Hein,
l'action se situe au 16e siècle. Hein.
Ouais, et l'action par contre j'ai une autre question. L'action se situe au 16e siècle en Périgord.
Oui, parce que toute l'action est censée se passer à Sarlat. Voilà.
Ah ben voilà.
Donc c'est et aux alentours. Donc, là on est vraiment c'est l'adaptation du roman de Robert Merle. Hein, donc et si ça marche derrière, il y a quand même, je crois, je sais pas combien il y a de volumes des livres de Robert Merle, mais ça démarre au XVIe siècle pour se terminer, je crois, juste avant la Révolution française. Donc
ah mais c'est prodigieux.
Donc
ah oui,
une grosse, voilà. Grosse, donc ça risque de
une grosse partie d'histoire. Oui. Ah, oui, d'accord. Quelle belle expérience.
Ah oui.
Franchement.
Oui.
C'est je trouve ça vraiment vraiment super. Et puis.
Et puis c'est aussi des rencontres. Hein. C'est toujours.
C'est génial. En plus ouais. Bon là voilà on y avait là, au niveau organisation c'est incroyable parce que bon la directrice de casting elle nous envoie des recommandations par mail.
Ah ouais.
Et du coup là moi j'avais aussi les adresses des personnes qui se rendaient sur le tournage ce jour-là.
Oui.
Donc pour faire du covoiturage c'était extraordinaire.
Exactement.
Je suis parti avec une personne de la Force et du Flé.
Ah.
On s'est retrouvé à Gardonne, on a pris la route ensemble et puis voilà, on fait connaissance des gens qui sillonnent des tournages, qui font beaucoup de figuration. Donc ça peut faire un relais, tu vois. Donc si jamais demain il y a des informations sur des nouveaux tournages, on peut être averti par le biais de ces gens-là aussi. Donc puis quand on est déjà dans un fichier. Après les directrices
oui,
des castings,
oui,
quand elles reviennent, voilà.
Oui.
Donc elles peuvent à nouveau te solliciter si besoin, quoi. Et il y a énormément de tournages en Aquitaine. Et là, j'ai appris que il y a des studios de cinéma qui vont se créer sur Sarlat. Hein.
Exactement. C'est ce qu'on voilà. en a parlé. Et je crois d'ailleurs que ça va rendre service, on va dire, à des grosses équipes, surtout internationales, parce qu'elles ont elles auront déjà un pôle sur place avec
certainement
du matériel et les techniciens qui vont avec.
Tout à fait. Le dernier film de Ridley Scott qui s'est tourné du côté de Sarlat.
Bon,
il s'est déplacé avec son équipe technique.
Ouais.
Là, voilà, avec la création de ces studios,
oui.
On va créer de l'emploi aussi parce que du coup,
exactement.
ils vont former des techniciens, oui. des machinistes, oui. décorateurs, oui. maquilleurs. Donc,
c'est un formidable projet. C'est un formidable projet. Et en plus, comme je le disais à Christophe et comme je le disais aussi aux auditeurs et auditrices, le Périgord, il est central, si tu veux, en Aquitaine. Il est au milieu, donc tu peux rayonner tout autour et même au-delà, on va dire. Avant, les gens ils débarquaient, tu sais, de Paris avec leurs camions, ils arrivaient par train, tout ça. C'était une logistique qui était très très lourde. Et là, justement, ça va simplifier les choses et ça va les rendre aussi moins coûteuses. Mais dans tous les cas, je ne doute pas du succès de la série.
Ouais.
Parce que c'est tourné ici chez nous et je crois que ça va rayonner, mais je pense aussi dans toute la France. Hein. Regarde le téléfilm de Fabien Otoniente,
mm-hmm.
Les Enfants des Justes,
mm-hmm.
a cartonné.
Mm-hmm.
Il a cartonné. Je ne sais pas s'il a été tourné en Aquitaine.
Hein. Si, il a été tourné
en Aquitaine.
Oui, bien sûr, il a été tourné en Dordogne. Hein.
Oui. En plus, en Dordogne encore. Bon. Et bien, il a eu grand succès. Grand succès à la télé. Quoi. Et celui-ci, qui en plus parle d'histoire, en plus qui parle de guerre de religion, je crois que c'est un gros sujet d'histoire. Hein.
Mmh.
La guerre de religion, c'est complexe. Hein. C'est très très complexe. On l'embrosse un petit peu là, ici, des fois, en parlant rapidement. Hein. Mais en plus, voilà, je trouve ça chouette d'apprendre en plus des choses. De voir d'autres choses, de découvrir donc l'œuvre de Robert Merle, mais en plus d'apprendre un peu d'histoire, parce que c'est pas les choses que t'apprends à l'école où on s'est brossé vite fait, on va dire. Donc je trouve ça vraiment vraiment chouette. Ça donne envie.
Ouais, une bonne expérience.
Mais tu peux te parler, franchement, ça donne vachement envie d'y aller.
Ah mais moi j'étais sur un petit nuage. Hein,
ouais.
Voilà. Moi j'ai vécu un grand moment, un grand rêve.
J'imagine, ouais. Non, mais j'ai vu.
Après il faut revenir dans la réalité, il faut se rhabiller en contemporain.
Il faut redescendre des étages
et revenir à la réalité des choses. Voilà, le temps passe vite, hein. On va devoir se quitter, mais en tout cas c'est un plaisir d'avoir reçu Christophe.
Mais c'était super, ouais.
Merci de m'avoir invité.
Merci à toi.
Grand plaisir. La prochaine coupe. Hein.
Absolument,
ouais, parce que voilà,
tu sais, Christophe, si tu veux t'exprimer sur des sujets bien particuliers.
Bon, après, c'est plutôt du tac au tac, quoi, voilà, de réagir sur la présentation de certains films, des choses comme ça,
d'accord.
Me dérange pas. J'adore parler cinéma, donc.
Avant de nous séparer, juste une précision, vous pouvez retrouver quelques images intéressantes sur la page Facebook du Conseil départemental de la Dordogne concernant ce tournage.
Oui.
Voilà, tout simplement, oui. Et je regardais si
et
vous voyez.
Très belle
Christophe.
Photo, d'ailleurs.
Voilà, j'ai peut-être vu Christophe Pérez traîner là. Voilà, bah on se quitte déjà. Et
on se quitte déjà, et oui. Et là, c'est bien trop court. On pourrait en parler pendant des heures. Je trouve ça vraiment passionnant.
Non, on en reparlera.
On en reparlera, bien sûr.
Avec plaisir.
Eh bien, le mot de la fin.
Le mot de la fin, mais déjà, merci Christophe d'avoir eu la gentillesse de venir. Et bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez
allez
Radio Grand-Père
au cinéma.
Et allez au ciné, venez nous voir à la Brèche. On a plein de choses à vous montrer, à vous faire découvrir. À très bientôt, les deux Christophe.
C'est ça, ouais.
À bientôt, le seul Pascal.
Oui, merci. À très bientôt à tous.